Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Benoît Hamon.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL, ce sont vos dernières heures de campagne. Mais d'abord hier soir, avant votre meeting à Montreuil, vous étiez sur le plateau de TF1, vous avez croisé François Fillon, il est intervenu juste avant vous, il était tendu, ému. Il a démenti avec force les accusations d'emploi fictif de sa femme, il se dit victime de calomnie. Il vous a convaincu ?
Écoutez, il appartiendra aux Français et à la justice d'en décider, aux Français de juger s'il était convaincant et à la justice de décider si c'était si l'emploi était réel ou pas. En toute hypothèse, ce que je crois pour l'avenir, puisque c'est ça qui m'intéresse, pour l'avenir, il faudra construire une frontière étanche dans le droit des parlementaires à embaucher un conjoint ou un membre de leur famille et dire que ces pratiques, comme dans d'autres pays, devront en France aussi être interdites.
Il y a Razi Hamadi, le député socialiste, qui demande à François Fillon de rendre ses preuves publiques, pas seulement de les porter à la justice. Et vous ? Est-ce qu'il vous semblerait effectivement opportun pour la sérénité du débat public qu'il procède ainsi ?
Écoutez, il fera le choix de sa défense, il la choisira, c'est le registre sur lequel il veut se défendre, et il le choisira. Pour moi, et il me semble que maintenant nous sommes attendus sur des engagements, dès lors qu'il apparaît qu'il y a un soupçon qui se porte en l'occurrence sur les conditions d'emploi de son épouse, mais plus généralement sur la manière dont certains parlementaires pourraient ou pas profiter des facilités que leur donne le Parlement pour embaucher des membres de leur famille qui ne travailleraient pas réellement. Je pense que voilà, il faut se tourner vers l'avenir et empêcher cela. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple.
Mais encore une question quand même. Je vois bien que vous ne voulez pas entrer dans ce dossier plein pied. Mais Bruno Retailleau, tout à l'heure sur RTL, qui était l'invité d'Yves Calvi, disait avoir la conviction que cette boule puante ne venait pas de son camp. Elle vient du vôtre ? De la gauche ?
Bah écoutez, elle vient pas de moi déjà, donc parce que j'ai pas spécialement d'informations, mais faut. Bon, écoutez, des boules puantes, il y en a toujours eu. Problème, c'est moins de savoir qui l'a jeté que d'essayer aujourd'hui de dire sa vérité. Ouais, voilà. Donc, moi, j'attends que François Fillon dise sa vérité, et en l'occurrence, puisqu'il a choisi l'exemplarité, qu'il s'explique, mais moi, je suis impatient aussi de débattre sur le fond des suppressions de 500 000 fonctionnaires, de la remise en cause de la sécurité sociale.
Si
c'est aussi là-dessus qu'il est attendu.
Si vous sortez vainqueur de la primaire, et justement, cette affaire éclipse un peu les dernières heures de campagne, mais ce sera dimanche, le vote. Il y avait des accents de vainqueur dans votre tribune, dans votre meeting hier, 3500 personnes à Montreuil. Est-ce qu'elle peut vous échapper ? Dimanche soir, la victoire. Tout peut arriver en politique, mais
moi, je ne considère pas que la victoire est acquise. J'essaye de me projeter, comme je l'ai toujours fait dans cette campagne. Même quand j'étais au plus bas des sondages, j'essaye de me projeter dans le moment qui sera le moment important, c'est-à-dire la vraie campagne présidentielle, qui n'est pas celle face à des rivaux de gauche, mais qui est celle face à la droite totale de François Fillon et l'extrême droite nationaliste et xénophobe de Marine Le Pen. C'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, sans rassemblement de la gauche, nous n'y parviendrons pas. C'est un chemin difficile, mais je veux me mettre aujourd'hui au service du rassemblement de ma famille politique, demain, les socialistes, mais au-delà de la gauche.
C'est la fin d'une campagne entamée il y a 6 mois. Comme dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous êtes parti le 12 août, Manuel Valls, début décembre, ou le 16 août. Vous arrivez à point, vous étiez la tortue, vous allez franchir peut-être, sans doute, premier, la ligne d'arrivée.
Je crois que c'est pas tant le lièvre et la tortue que le futur que l'on propose. J'ai essayé de défendre un futur, mais sérieusement, désirable. Et c'est autour de cela qu'on m'a reproché de développer une certaine idée du progrès social, de l'avenir de la sécurité sociale, du rapport au travail, du rapport à notre environnement. Et c'est autour de ce futur désirable que se sont construits les rassemblements de citoyens de gauche, et pas autre chose. Faut pas
on
se tromper, c'est pas
avez...
simplement une affaire de profil et de tempo.
Vous avez apporté un supplément d'âme, si on peut dire, dans ce programme, mais on va en parler. Mais est-ce que vous n'avez pas surtout fait face à un candidat plombé par le quinquennat Hollande ? Est-ce que vous ne bénéficiez pas aussi largement du rejet de l'exécutif ?
Il y a sans doute des hommes et des femmes qui votent pour moi par rejet du quinquennat ou par déception. Je pense aussi, et c'est surtout cela qui est important à mes yeux, qui se lève aujourd'hui en France un vent positif, beaucoup plus optimiste, une espérance. C'est-à-dire que quand j'ai construit mon slogan de campagne, faire battre le cœur de la France, c'est que j'ai constaté qu'il ne battait pas forcément dans la sphère politique, mais quand aujourd'hui, spontanément, on construit des solidarités, on fait face à un recul du service public, on essaie d'inventer des solutions écologiques sur le terrain, le cœur de la France, il bat. Et c'est ce cœur-là, moi, que je veux faire battre dans la campagne présidentielle, lui donner un relief, une force collective au niveau national.
À quoi Manuel Valls a opposé la raison, le cœur, votre programme fait rêver. Le revenu universel, on va revenir, on en a beaucoup, beaucoup parlé, idée passionnante intellectuellement, mais futuriste, vous le reconnaissez vous-même, c'est pas maintenant. Et Mélenchon lui-même, dont vous voulez vous rapprocher, disait cela hier soir en meeting. Écoutez.
Je ne suis pas en train de vous proposer quelque chose que dans 8 jours, vous allez me voir en rabattre la moitié, comme d'autres ont fait. Hein ? Parce qu'une aventure qui commence par le revenu universel et qui termine par le RSA amélioré, excusez-moi, mais c'est pas très sérieux.
C'est pas très sérieux, Benoît Hamon.
Bah, ce qui n'est pas sérieux de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas voir que beaucoup d'hommes et de femmes de gauche qui pourraient voter pour lui veulent aujourd'hui changer leur rapport au travail, se construire de nouveaux droits. Et ce qui n'est pas sérieux, c'est de caricaturer le programme des autres. Moi, je ne le caricature pas, Jean-Luc Mélenchon. J'écoute ce qu'il dit. Une partie de ce qu'il dit m'intéresse, notamment la planification écologique. Mais pour ce qui me concerne, je dis que l'engagement que je prends est de faire en sorte que, oui, les bénéficiaires du RSA, les pauvres, puissent bénéficier demain d'un revenu universel de 600 euros automatique, aujourd'hui il ne l'est pas, que les jeunes de 18 à 25 ans qui connaissent la précarité, mais tous les jeunes sans condition de ressources en bénéficient.
Mais ensuite, il ne dit pas le contraire.
Oui, non, si, il parle d'un RSA amélioré, mais je vais aller plus loin.
RSA amélioré, c'est étendu.
Et demain, non, c'est pas étendu. Le principe d'un revenu universel, c'est qu'il est non conditionnel. Et pour les 18-25 ans, il sera non conditionnel. C'est-à-dire que ça ne dépendra pas de vos ressources. Quel est l'intérêt ? D'abord, de libérer 600 000 emplois étudiants aujourd'hui. Ce sont des étudiants qui sont obligés de travailler pour se payer leurs études. Or, les étudiants qui échouent le plus dans leurs études sont ceux qui travaillent. Quand vous donnez 600 euros aux jeunes parce qu'ils connaissent aujourd'hui des contrats courts, qu'ils sont obligés de passer du travail salarié au travail non salarié, on parle de l'ubérisation, obligés de se former. Mais qui est intéressé aujourd'hui par le revenu universel parmi les jeunes ? Beaucoup de jeunes start-upers qui nous disent « On monte, aujourd'hui on crée une entreprise, on ne peut se distribuer ni dividendes ni salaires, ce revenu universel est un moyen pour nous d'être protégés un minimum pour pouvoir justement innover et créer. » Qui est intéressé par le revenu universel ? Les agriculteurs qui, pour un tiers d'entre eux, ne vivent qu'avec 350 euros par mois, 300 suicides par an, si vous croyez que ces gens-là ne connaissent pas la valeur travail. Aujourd'hui, nous sommes... Non, mais ce que je veux dire à Jean-Luc, comme à tous les autres, arrêtons d'être finalement arrimés à un ordre ancien. Essayons de penser le monde tel qu'il vient et pas tel qu'on l'a connu.
La question qui est posée, c'est votre rapport à l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, c'est une vision, mais c'est aussi une action politique à court terme.
J'ai même laissé deux lois, dont des lois très utiles aux consommateurs.
Mais est-ce que l'exercice du pouvoir, c'est de quitter, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale 3 jours avant la rentrée scolaire ?
Mais la rentrée scolaire, Madame Martichoux, c'est moi qui l'ai préparée. Le budget sur les 3 ans qui ont suivi, c'est moi qui l'ai fait arbitrer. Et il permettait les créations de postes. Donc, moi, les engagements, je les ai tenus. Mais un bon ministre est-il celui qui reste dans un fauteuil quand il est en désaccord avec des politiques économiques et sociales qui, à ses yeux, préparent la précarité ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être ministre de l'Éducation nationale, de penser à l'éducation de nos enfants, quand on a le sentiment que la société que l'on prépare une fois qu'ils sortiront de l'école sera féroce, concurrentielle, dure pour eux ? Moi, j'assume mes responsabilités. Non, madame, je termine, madame Martichoux. J'assume mes responsabilités et je les ai assumées avec constance dans ma vie politique. Peut-être que c'est le reproche essentiel que l'on me fait aujourd'hui.
Une partie de ceux qui ont voté Benoît Hamon ne viendront pas voter pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. C'est ce que disait à votre place Bruno Le Roux, mercredi matin sur RTL. Il a tort.
Ah ben, il est ministre de l'Intérieur. Peut-être qu'il a des informations que je n'ai pas.
Non, il a tort sur le fond.
Non, mais plus sérieusement, tout ça, c'est du commentaire. Moi, ce que je veux dire, c'est que je compte évidemment sur Bruno Le Roux demain pour
mener... Qui soutient Manuel Valls, on le rappelle.
Oui, mais
ouvertement.
Il a parfaitement le droit et je respecte cela. Mais en tout cas, j'aurais besoin de lui comme beaucoup d'autres pour que la campagne soit une campagne réussie, que nous puissions être au second tour de l'élection présidentielle.
Alors justement, Mélenchon dit aussi, décidément hier soir, à vous qui souhaitez le rassemblement, viendez, on l'a entendu à 7h30, c'est une façon un peu jeune de parler, on traduit, venez vous ranger derrière moi.
C'est pas très jeune.
Non, c'est pas très jeune, mais enfin bon, je traduis quand même par courtoisie à l'égard de nos auditeurs. Viendez, vous irez derrière lui ?
Écoutez, moi je ne pose aucun préalable qui dirait, écoutez, le rassemblement c'est évidemment indispensable, mais à une seule et unique condition, que ce soit derrière moi. J'ai compris que c'était un peu la démarche de Jean-Luc. Ouais. Moi ce que je souhaite faire avec lui et avec d'autres, pour qu'au-delà de la présidentielle, on puisse envisager des formes de gouvernement en commun, c'est de voir ce qui nous réunit, et de voir encore ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare avec Jean-Luc, c'est incontestablement une conception de la construction européenne. Moi je pense qu'il ne faut pas sortir de l'Europe, en tout cas il ne faut pas laisser cette perspective ouverte.
Je pense qu'il ne faut pas. Pourtant, vous dites au quotidien 20 minutes ce matin, la Commission européenne, je lui dirais bye bye, merci.
Non, je ne pas bye bye, merci. Je pense que je lui
dirai au revoir et merci.
Oui, sinon, mais si on m'explique que demain nous ne pouvons pas mener des politiques publiques en matière d'investissement sur la conversion écologique de notre économie, oui, je lui dirai. Je ne sais pas la sortie de l'Union européenne. Non, mais oui, je dirai à la Commission européenne que de facto, aujourd'hui, nous avons besoin de creuser parfois un peu le déficit pour mettre en place des politiques sur des politiques de conversion écologique de notre économie, et pas autre chose. Mais l'autre désaccord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, c'est en matière de politique étrangère, cette forme d'attitude et de complaisance à l'égard de Vladimir Poutine, que je ne comprends pas. Nous avons là un impérialisme agressif de la part de la Russie, qu'il faut traiter avec fermeté, certainement pas avec complaisance.
On y reviendra pendant la campagne. Hollande ne vote pas, François Hollande, pardon, ne votera pas dimanche, ça vous choque? Il se désintéresse de cet enjeu?
Non, ça ne me choque pas. J'aurais trouvé curieux qu'il vote. Plutôt, à la primaire, il votera aux élections présidentielles. Il dira sans doute sa préférence, mais j'aurais trouvé curieux qu'il vote.
Que se passe-t-il lundi matin si vous gagnez? Une fuite de députés socialistes vers Emmanuel Macron?
Je ne le crois pas. Il y en aura sans doute qui feront ce choix-là, mais moi, ma tâche sera de convaincre l'immense majorité des parlementaires socialistes de se battre avec moi, et j'entends bien m'appuyer sur eux, mais d'un mot. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti socialiste, il s'agit de rassembler au-delà. Et j'entends bien que la dynamique qui se construit aujourd'hui déborde très largement le parti socialiste.
Vous continuez ce dialogue sur RTL avec les auditeurs, tout à l'heure à 8h20.
J'ai proposé un avenir désirable, vient de nous dire notamment Benoît Hamon, pour expliquer le succès de sa campagne. On va voir si le désir continue à partir de 8h20. Vous nous appelez au 3210 avec toutes vos questions aux candidats de la primaire de la gauche.